Nous sommes donc le jour de Hoshana Rabba. Le Hoshana Rabba s'appelle dans les Rishonim, ainsi il est rapporté dans le Rabbeinu Bechayai. Il est rapporté également beaucoup de Rishonim dans le Ramban, que le jour de Hoshana Rabba c'est Yom HaChotam HaGadol, le jour de la grande signature. Alors, il faut savoir que Hoshana Rabba est un jour extrêmement important. On va essayer de voir ensemble quelques significations pour comprendre quel est le sens de ce jour de Hoshana Rabba, le jour où on fait beaucoup de Hoshanot. Donc, les Hoshanot, on les a fait durant toute la fête de Sukkot. Là, nous sommes le jour où nous allons faire sept fois les Hoshanot. Et bien sûr, si nous sommes à l'apogée des jours qui ont commencé déjà le Rosh Chodesh Tishri depuis Rosh Hashanah, donc les jours de jugement, et qui vont se finir demain matin, aujourd'hui demain. Donc le jour de Hoshana Rabba, ce matin, puisqu'on est déjà le matin. Alors, je voudrais d'abord commencer par un sujet qui est très intéressant, qui concerne en fait la relation de la Souka avec les Goïm. Nous savons tous que ce jour de Hoshana Rabba également est un jour important. Pour quelle raison? Essayons de voir tout d'abord ce qui se passe durant cette fête de Sukkot. Nous avons lu la Haftara du premier jour de Sukkot qui parlait justement également dans Zecharia. La Haftara parlait donc de la fin des temps où il y aura une Souka. Et dans cette Souka, on verra que dans cette Haftara, on nous raconte que même les Goïm, les autres peuples, vont devoir un jour également rentrer dans notre Souka. Sinon, il y aura des épidémies pour eux. Nous aurons donc l'obligation d'appartenir à cette mitzvah de Souka. Nous voyons également dans la Gemara, dans Maseret Avodah Zarah, qui rapporte donc, tout début de la Maseret du traité Avodah Zarah, qui rapporte Rabbi Shmilai qui dit « L'atid lavo mevia kadosh baruch hu sefer Torah becheiko » Donc à la fin des temps, l'atid lavo, Akadosh Baruch Hu va porter un sefer Torah, « V'omer le misha sakba yavo veitol sraro » Celui qui a étudié la Torah viendra, que qu'il vienne et qu'il prenne son salaire, sa récompense. Évidemment, immédiatement, les Ovdei Kochavim, les Goïm, les autres peuples viennent et veulent essayer également de recevoir leur salaire. Alors qu'ils n'ont pas étudié la Torah et les mitzvot, ils essayent par plusieurs moyens, et c'est ce que la Gemara nous raconte, ils essayent par plusieurs moyens de recevoir un salaire sur l'étude de la Torah. Alors la Gemara nous raconte que les Romains vont dire, bien sûr, nous avons construit des bains, nous avons construit des ponts, tout cela pour que quoi? Pour que les Talmidei Chachamim puissent passer et étudier la Torah. Mais Akadosh Baruch Hu leur répondra, « Shotem shotim sheba olam » Vous êtes fous? C'est complètement faux ce que vous racontez. Si vous avez construit des bains, si vous avez construit des autoroutes, si vous avez construit des marchés, des shukim, c'est dans le seul but de votre profit personnel. C'est pas dans le but du tout de le faire pour que la Torah, les mitzvot, pour que la Torah puisse être étudiée par les Bnei Israël. Mais c'est au contraire, c'est pour vous, c'est pour votre profit personnel. Et la Gemara raconte, c'est intéressant de l'étudier, la Gemara nous raconte, durant la première page du traité Avodah Zarah, la discussion qu'il y a eu entre Akadosh Baruch Hu, qu'il y aura donc entre Akadosh Baruch Hu et les peuples. Eux vont essayer d'avoir un certain salaire, et lui leur dit non, c'est faux, vous n'avez droit à aucun salaire. Et il va dire, qui a droit au salaire? Les Bnei Israël. Eux, les Bnei Israël qui ont étudié la Torah et les mitzvot, eux, en effet, ont le droit à ce salaire. Mais bien sûr, les peuples, les autres peuples, n'acceptent pas. Et eux vont dire, c'est faux. Les Bnei Israël, c'est pas vrai, ils n'ont pas fait la Torah et les mitzvot. Qui me prouve? Alors, Akadosh Baruch Hu va dire, je peux juger, je peux témoigner que les Bnei Israël ont accompli la Torah et les mitzvot. À ce moment-là, les peuples vont dire, les goïms vont dire, mais tu ne peux pas témoigner puisque tu es un père pour un enfant. Un père ne peut pas témoigner pour un enfant. Et la discussion est à ce niveau-là entre Akadosh Baruch Hu et les goïms, où ils vont essayer de trouver toutes sortes de raisons pour dire qu'en fin de compte, on ne pourra pas témoigner que les Bnei Israël ont accompli la Torah et les mitzvot. En fin de compte, Akadosh Baruch Hu va arriver en disant oui, et il va apporter d'autres personnages qui, eux, pourront témoigner. Par exemple, Nimrod pourra témoigner qu'Avraham Avinu, eh bien, n'a pas fait d'Avodah Zara, n'a pas pratiqué d'idolâtrie, puisqu'il était monothéiste, le premier Avraham Avinu. Potiphar, la femme de Potiphar pourra témoigner que Yosef eh bien, n'a pas fauté. La vanne pourra témoigner que Yaakov n'a pas volé. Et ainsi, la Gemara apporte des preuves que les ministres d'Israël ont, oui, en effet, accompli la Torah et les mitzvot. Mais ce qui nous intéresse le plus à ce propos, c'est la fin de la Gemara, puisque la Gemara nous raconte, en fin de compte, que les goyim vont dire, mais c'est vrai, les bnei Israël, ils ont eu droit à la Torah et les mitzvot, mais Kafa, les Emar, Kegigit, Akadosh Baruch Hu, toi, tu leur as imposé la Torah et les mitzvot. Si nous, on avait eu la Torah et les mitzvot, nous aussi, on aurait pu avoir ce salaire. Pourquoi n'a-t-on pas le droit? Nous aussi, on veut ce salaire. On veut cette récompense de l'étude de la Torah et des mitzvot. Amrou les fanal ribono shalolam, tna la numerosh finasena. Amalem, Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu leur a répondu. Shotim shebaolam, mi shetarach be'erev shabbat, yochal be'shabbat. Nouveau cette expression, vous êtes imbécile. On peut pas, c'est trop tard maintenant pour demander une récompense. C'est comme Shabbat. Shabbat, lorsque on arrive Shabbat matin et qu'on dit « Ah, on n'a pas préparé le repas », c'est trop tard, on ne peut plus le faire. Il fallait préparer avant Shabbat le repas pour qu'on puisse avoir un bon repas pendant Shabbat. Si on n'a pas préparé, eh bien c'est trop tard. « Mishelo tarach be'erev Shabbat »« Meichan yochal be'Shabbat » D'où va-t-il manger pendant Shabbat puisqu'il n'a pas préparé avant Shabbat ?« Et là, afal pichen » Et là, c'est ce qui nous intéresse à ce propos, ce qui nous concerne. Akadosh Baruch Hu leur a dit très bien. Mitzvah kala yeshli. J'ai une mitzvah pour vous. Une mitzvah. Souka. La mitzvah de Souka. Lechu vasuota. Allez-y. Et faites la mitzvah de Souka. Nous allons voir si vous êtes capable de faire cette mitzvah. D'accord, c'est une, bien sûr, c'est une image, c'est une parabole que la Gemara nous raconte de ce qui pourrait avoir lieu comme discussion entre les goyim, les revendications de leur ta'anot, leurs revendications, et la réponse d'Akadosh Baruch Hu. Va Marabi Yehoshua ben Levi Maïdirtiv. Donc, la Gemara nous rapporte que, en effet, c'est une mitzvah kala, une mitzvah qui n'a pas de chisaron kis, comme ça définit la Gemara, c'est le sujet peut-être d'un autre cours, eh bien, qui n'a pas de. Elle coûte pas cher. Qu'est-ce qu'on fait dans la soukha? On mange ce qu'on devrait manger à la maison, on dort, on boit, on vit comme si c'était dans une maison, et encore, ça revient moins cher qu'à la maison. D'accord? Puisque dans une petite souka, on n'a pas besoin d'allumer le chauffage, ça ne sert à rien. Mishum deleit bechisaron kis, miyad kol echad vechantel veoler veose souka berosh gago. Les goyim immédiatement sont allés, ils ont construit leur souka. Vakadosh Baruch Hu makdir alehem chama bitkufat tamuz. Akadosh Baruch Hu leur a fait ressortir un soleil extrêmement chaud. Il faisait très très chaud ce jour-là. Et donc les goyim sont sortis de la soukha. Et là, la différence qu'il va y avoir entre les Bnei Israël et les goyim, c'est que les goyim vont sortir de la soukha en rejetant la soukha. Alors que les Bnei Israël sont censés dire en sortant de la soukha, et c'est très difficile, je sors de la soukha, j'ai la peine de sortir de la soukha. Les goyim, non. Les goyim vont sortir, à ce moment-là, ce que Mara nous raconte, sont sortis en repoussant la soukha, en disant, mais mince, c'est quoi, c'est ça la mitzvah de soukha? On a trop chaud, c'est pas possible d'accomplir cette mitzvah. Et ils sont sortis quelque part avec joie de quitter. Alors que nous sommes censés, lorsque nous quittons la soukha, lorsqu'il pleut, nous sommes censés avoir de la peine. Dire, mais si on n'a pas de soukha, comment on va accomplir la mitzvah? S'il pleut maintenant, et qu'on ne peut pas rentrer dans notre soukha, on a une souffrance, puisque mitztaer patour, celui qui souffre de la soukha, il est patour. Comment va-t-on faire pour accomplir la mitzvah de la soukha? Le point qui nous concerne ici, c'est la question que nous allons essayer de développer ensemble, c'est bien sûr de comprendre comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu propose cette mitzvah de soukha au goyim. Alors nous savons qu'à Pessah, nous n'avons pas le droit d'avoir à notre table un non-juif. La soukha, ça représente les nuées, la nekavot que nous avions lorsque nous étions dans le désert pendant 40 ans. Dans ce désert, il y avait qui autour de cette nuée? Que les Bnei Israël. Nous sommes en train de fêter cette fête de Soukhot qui représente justement l'unité du peuple juif avec lui-même. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu ici propose la mitzvah de soukha à des goyim. C'est incompréhensible. Cette mitzvah nous appartient. Cette mitzvah, elle appartient qu'aux Bnei Israël. C'est justement cette mitzvah qu'on devrait donner uniquement pour les Bnei Israël. Et pourtant, pourquoi Akadosh Baruch Hu vient et nous dit, oh, bien sûr, ensuite, pourquoi ils ont rejeté la soukha ou pas, c'est un autre problème. Mais on voit bien qu'il leur a proposé, eh bien, de rester, de pratiquer cette mitzvah de la soukha qui ne leur appartient pas. Comment ça se fait? Si on regarde les haftarot que nous lisons pendant les premiers jours de Sukkot, c'est des haftarot extraordinaires. Le premier jour dans Zecharia, nous lisons dans les haftarot, eh bien que les goïms vont un jour venir dans notre soukha, comme nous l'avons précisé au début. On a l'impression de nouveau que les goïms, ils ont un lien, ils ont un certain kécher, une relation avec notre soukha. Quel est ce rapport? Pourquoi ces autres peuples qui n'ont pas participé à notre séjour dans le désert autour d'un année Kavod, ont-ils droit également à une dimension de cette fête, de la fête de Sukkot? Dans les Haftarot, nous avons vu dans le début de l'Haftarot, dans celle du premier jour, c'est surprenant, on raconte en fin de compte que les goïms qui ne viendront pas à la fin des temps dans notre Sukkot auront des épidémies, auront des souffrances. Ils vont devoir finir par rentrer sous notre Sukkot. Ils auront l'obligation de rentrer dans notre soukha. Et ça, c'est incompréhensible. En quoi les goïms ont-ils une relation avec cette mitzvah de Sukkot? Vous savez certainement que la haftara que nous avons lue, le Shabbat Chol HaMoed, c'est la haftara de la guerre de Gog et Magog. Et de nouveau, Gog et Magog, c'est la dernière guerre que les goïms feront pour essayer de déstabiliser le Mashiach. Cette guerre de Gog et Magog aura lieu à la fin des temps. Ce seront les dernières, les peuples, qui voudront essayer de retirer le Mashiach. Le Mashiach sera là. Il y a une discussion. Le tour, dans le Siman Tavpé, il dit qu'il y a une Kabbalah des Géonim. Et c'est pour ça qu'on lit la Haftara au moment de Shabbat Chol HaMoed. Que c'est au moment du Chodesh Tishri. C'est pendant le mois de Tishri qu'aura lieu la guerre de Gog et Magog. La même manière que dit le rapporte le tour au nom des Géonim qu'il y aura au mois de Nissan la Triat Hametim, la résurrection des morts, eh bien, il y aura au mois de Tishri, c'est un mois qui est propice à la guerre de Gog et Magog. Pourquoi? Quel rapport? De nouveau, la guerre de Gog et Magog, c'est l'intervention des Goïm contre le roi, contre le Mashiach. Il est vrai que Sukkot est propice à cette guerre de Gog et Magog. Et c'est pour cette raison que nous lisons cet Haftara, Shabbat Chol HaMoed. Il faut bien comprendre dans tous ces sujets-là, rien n'est établi. Si au niveau de l'étude, on a le droit de dire et de comprendre certains textes qui nous disent que telle période est propice et telle période ne l'est pas, que le mois de Tishri, eh bien, la guerre de Gog ou Magog, cette guerre ultime, cette dernière guerre, eh bien, elle pourrait arriver au mois de Tishri, eh bien, ce n'est pas certain. Ça ne veut pas dire qu'elle ne pourrait pas arriver à notre moment. Le Rambam, d'ailleurs, apporte une phrase intéressante à ce propos-là. L'homme ne saura pas, en fin de compte, ce qui se passera réellement avant que ça se passe. Le jour où ça se passera, on saura à quelle période ça a eu lieu. Donc c'est vrai que ce n'est pas établi, en fin de compte. Ce n'est pas certain à 100% que ça va avoir lieu au mois de Tishri. Mais l'étude en soi, c'est ce que rapportait le Bris Kerouv, l'étude en soi, cette étude, de voir pourquoi c'est propice par rapport à la période de Sukkot, de comprendre pourquoi Triat HaMetim par rapport à la période de Pessah, pourquoi chaque période, chaque époque, elle peut être propice à certaines situations, à certains événements, ça on a le droit d'étudier, c'est intéressant. On va essayer de voir également ensemble pourquoi Gog et Magog, la guerre de Gog et Magog, doit-elle avoir lieu en principe pendant cette période de Tishri, ou en tout cas est-elle propice pour cette période de Tishri? Vous savez que la guerre de Gog et Magog, comme je l'ai exprimé, ça doit avoir lieu après l'arrivée du Mashiach. Il y a des grandes marloktot également, des discussions. Elou, velou, divrei Elokim chaim. Toujours est-il, c'est après que le Mashiach soit présent, le roi Mashiach qui est censé être le roi de tous les peuples, qui en fin de compte va réunir autour de lui non seulement bien sûr les bénis d'Israël, mais également tous les autres peuples, va en fin de compte faire le grand Israël, les autres peuples qui vont se rattacher eh bien, à la royauté du peuple juif. Eh bien, il y aura en fin de compte, en dernier lieu, il y aura ce peuple de Gog et Magog qui va refuser eh bien, d'accepter le roi Mashiach. Et là, il y aura une guerre extrêmement violente. Une guerre qui sera très difficile pour tout le monde, même pour les Bnei Israël. La guerre de Gog et Magog. Pour nous, ça a une signification un peu difficile. Gog et Magog, on a l'impression que c'est la fin des temps, c'est vrai, mais c'est une guerre qui va être très difficile pour Klal Israël. Le Maharal, dans le Sefer Netzach Israël, il parle un petit peu de cette notion de la guerre de Gog et Magog dans le Perek Lamed Zayin et le Perek Lamed Chet. Il dit, c'est vrai, ce sera une guerre contre le Melech HaMashiach, contre le roi Mashiach. Le Melech HaMashiach, à ce moment-là, sera le roi du monde. Il sera établi comme le roi du monde. Tout on acceptera, à part cette dernière guerre de Gog et Magog. Vous savez que la paix, c'est, comment on traduit en français, en hébreu, la paix, shalom. Shalom. Être entier, être parfait, ça se dit shalem. Le Maharal nous dit qu'il y a une relation directe entre shalom, la paix, et être shalem, être entier. Être, je ne dis pas parfait, mais avoir une compréhension complète de ce qui se passe. À quel moment y a-t-il une opposition ? Dans n'importe quelle situation. L'opposition, elle vient toujours lorsqu'on n'est pas entièrement shalem. Lorsqu'il y a de quoi avoir une position, c'est-à-dire qu'il y a toujours, on peut toujours prendre une autre position. Lorsque ce n'est pas certain, lorsque la position n'est pas claire et n'est pas complète, n'est pas parfaite, il y a toujours ce qu'on appelle, eh bien, un problème de shalom. Lorsqu'on n'est pas shalom, dans n'importe quelle situation, lorsqu'on n'est pas entier, complet, parfait dans notre réflexion, eh bien, il y a toujours cette opposition qui peut naître. Lorsqu'on n'a pas on n'est pas shalom, il y a ce problème de shalom. Il n'y a pas la paix. Et c'est la relation que fait justement le Maharal entre le mot shalem et le mot shalom. C'est lorsqu'il y a un vide, lorsqu'une personne n'est pas, elle peut être sûre d'elle-même, mais lorsqu'il y a de quoi s'opposer, eh bien il y a toujours des opposants qui seront toujours là, dans n'importe quelle situation. Tant qu'on n'arrive pas à la plénitude, à la perfection, il y aura toujours des opposants. Lorsqu'il y a même une petite imperfection, il n'y a pas de vide. Lorsqu'il y a du vide, immédiatement se remplit, eh bien, cette contradiction, cette opposition. C'est en effet cette opposition. Lorsqu'une personne connaît exactement sa voie, et elle sait exactement où elle veut aller, lorsqu'elle est parfaite, entière dans cette décision, eh bien, personne ne peut s'opposer. Personne ne peut venir y contredire. Dès qu'il y a eh bien, un vide quelque part, dès qu'il y a une possibilité d'opposition, tout de suite elle apparaît. C'est justement cette relation entre shalem et shalom. Je répète, quand il y a, lorsqu'on est shalem, il y a le shalom, il y a la paix. Il n'y a pas de quoi s'opposer. Un rav qui disait que tant qu'il y a la guerre entre nous, les Tserara, ben, il y aura des guerres, il y aura des opposants dans le monde. Tant qu'il y a entre nous ces deux positions, entre ce que nous voulons et ce que le Yetzer Hara veut que nous fassions, ben, le Yetzer Hara vient toujours avec une nouvelle position, vient toujours avec une nouvelle orientation. Et bien, tant qu'il y a cette guerre entre nous et le Yetzer Hara, ben, il y aura toujours la guerre dans le monde. Il y aura toujours des oppositions. On ne sera jamais parfait dans notre position. On ne sera jamais complet. Le jour où il n'y aura plus d'opposition, il n'y aura plus d'Etserara, eh bien il y aura la paix dans le monde. Le jour où il n'y aura plus le combat entre nous, l'Etserara, eh bien c'est ça notre travail contre l'Etserara. Si on lui laisse de la place, Si on laisse la place à une opposition, eh bien il est là. On n'a même pas besoin de le faire venir. Il est déjà présent, il est là, le Yetzara. Il vient, il s'oppose. Mais si on lui montre que notre voie, elle est tracée, il n'y a pas de solution, on va jusqu'au bout, ben, le Yetzara, il va nous atteindre. Il lui faut aller beaucoup plus loin pour nous atteindre. Exactement la même signification au niveau de notre position, de la position du clan d'Israël face aux autres nations. Tant que le clan d'Israël, également, il a cette position où il n'est pas encore certain de sa voie, il n'est pas encore complet, il n'est pas encore parfait dans sa voie, il y aura toujours des peuples qui vont se lever contre lui pour s'opposer au clan d'Israël. Je voudrais revenir à la question que j'ai posée. Nous avons demandé la relation qu'il y a entre les non-juifs, les goïms, et Sukkot. Nous avons vu d'abord bien que les Haftarot, que nous l'avons lu, d'abord la guerre de Gog ou Magog. L'Haftara du premier jour de Sukkot, eh bien, c'est également, on parle des goïms, où on dit qu'ils vont venir sur notre Sukkha, c'est surprenant. Vous avez vu dans la Gemara, dans Avodah Zara, eh bien que les goïms, eh bien, ils ont le droit, ils ont une relation avec cette mitzvah de Sukkah. Puisque Akadosh Baruch Hu va leur dire mitzvah kala, quelle mitzvah a-t-il choisi de la mitzvah de Sukkah ? Bien, nous voyons de plus que pendant toute la fête de Sukkot, nous allons amener 70 korbanot, 70 parim. Et ces 70 parim, taureaux que nous amenons comme korban, correspondent aux 70 umot, les 70 peuples qui nous entourent. Il y a 70 nations qui entourent le peuple d'Israël, qui lui est unique. Et si le jour de Hoshana Rabba s'appelle Yom Achotam Agadol, certains vont dire, c'est vrai que il correspond au... Je ne voudrais pas développer ce point, mais le Rabbeinu Bechaye rapporte, c'est le 21 Tishri, ça correspond aussi à un nom d'Akadosh Baruch Hu, Yom Achotam Agadol, c'est là le jour, certains vont dire Yom Achotam Agadol, parce que c'est le jour également où nous avons finalisé les korbanot pour les Shivim Umot, pour les 70 nations. Regardez, nous passons la fête de Sukkot avec cette relation avec les goïms. Puisque de nouveau, nous allons, toute la fête de Sukkot, apporter des korbanot tous les jours, uniquement pour les goïms, pour les 70 nations, 70 peuples. Nous allons passer tous les jours de Sukkot. La Gemara raconte que les goïms, s'ils savaient quelle perte ils ont eu à la destruction du Beth Amikdash. Parce que jusqu'à la destruction du Beth Amikdash, eh bien, les goïms avaient le droit à être pardonnés quelque part. Puisque les bénis Israël apportaient pour eux des korbanot, des offrandes. Le jour où il y a eu la destruction du Beth Amikdash, ils n'ont plus le droit à ces offrandes, les goïms. Ils sont en détresse, ils sont en difficulté. S'ils l'avaient suivi, la Gemara, ils nous auraient remerciés. Ils auraient eu de la peine qu'aujourd'hui il n'y a plus le Beth Amikdash. Nous voyons encore cette relation que nous avons avec les goïms pendant Sukkot, puisque nous passons 70, nous offrons 70 korbanot, 70 parim, uniquement pour les peuples. Donc la question revient. Cette relation avec les goïms qui sans arrêt se révèle à Sukkot, elle est difficile à comprendre. Surtout Sukkot, qui est la fête par excellence, qui représente la Nané Kavod, l'unité du peuple juif dans sa Sukkha. Comme les bnei Israël dans le désert où ils étaient face à eux-mêmes, dans leur peuple, dans leur unité. Ils se protégeaient justement des Égyptiens à travers ça dans les Kavod. Et pourtant, on voit cette relation entre Sukkot et les goïms. Cette guerre de Gog ou Magog également, qui doit avoir lieu pendant ce mois de Tishri. Quel rapport ? Si nous offrons à Sukkot ces 70 parim, ces 70 offrandes pour les goïms, c'est pas pour rien. D'abord, pourquoi 70 ? Bon, à quel moment ça a démarré ? À quel moment ? Je ne voudrais pas développer le sujet, on va essayer de voir brièvement. 70 nations, ces 70 nations ont démarré après l'histoire du Dor HaPalaga. Dor HaPalaga, c'est ce que nous allons lire dans quelques jours, Parashat Noach, et un peu par la suite également. Toute l'histoire, eh bien, après le Dor HaMabul, la construction de la tour de Babel. Pour certains, nous avons déjà vu ensemble la problématique de la tour de Babel. C'était pas seulement construire une tour pour arriver le plus haut possible, pour essayer de combattre HaKadosh Baruch Hu. C'était bien plus profond que cela. Puisque cette tour de Babel, Na'aseh lanu ir ve'rosho ou migdal. On va faire une ville et une tour. C'est pas seulement la tour de Babel. On a traduit ça par la tour de Babel. Mais également la ville et la tour ve'rosho bashamayim. Pen nafutz at pene kol haaret. De peur qu'on se disperse sur la surface de la terre. Alors, pour ne pas se disperser, on va faire une tour et une ville. Quel est le rapport? C'est pas en faisant une tour qu'on va pas se disperser. C'est vrai qu'on peut rester. C'est vrai qu'une tour prend moins d'espace. Il y a des pays qui l'ont bien compris. Il y a des villes qui ont bien compris, qui font des tours très hautes pour pouvoir avoir, pour gagner de l'espace. Mais ça suffit pas. Puisqu'on voit que ce Dor HaPalaga, ils avaient d'autres notions. Puisque, eh bien, quelle a été leur punition? Ils ne se comprenaient plus les uns les autres. Quel rapport y a-t-il entre cela et la construction de la tour de Babel? Alors, rapidement, eux, ce qu'ils cherchaient, c'était s'unir. Ils se disent, peine à foutre, si on se disperse, qui va être dans les nations? Qui va être dans les peuples qui vivent sur la surface de la terre? Qu'est-ce qui va nous unir? On va tous se disperser. Un genre d'ONU. Il faut quelque chose qui nous mette en relation les uns les autres. C'est ça, Ir ou Migdal. Une ville et une tour. L'intersection va être à quel endroit? Va être sur Terre. L'intersection entre les mondes d'en haut et les mondes d'en bas va se passer sur Terre. Et c'était leur façon, leur compréhension. Je sais qu'il est tard. C'est des notions difficiles, je ne voudrais pas développer ce sujet, c'est un sujet très profond. Mais ce qu'ils ont essayé de faire, c'est justement essayer de remettre en question HaKadosh Baruch Hu, la divinité. De quelle manière? En disant que ce qui va nous unir sur Terre, ça va être nous-mêmes. On va faire l'intersection de cette tour et de cette ville, puisqu'il ne faut pas oublier que le pasuk nous dit Ir ou Migdal. Une ville et une tour, pour que l'intersection, ce soit l'endroit où on soit réunis avec nous-mêmes. C'est-à-dire rejeter HaKadosh Baruch Hu, rejeter Hachem, et faire en sorte que nous soyons unis grâce à nos propres décisions. Et j'ai entendu d'un grand rave, certains l'ont déjà entendu, j'ai déjà répété, que par la suite, au début des années 000, une certaine personne, que je ne voudrais pas citer son nom, eh bien, a fait l'épisode numéro 2 de Dor HaPalaga. La croix, c'est exactement la même notion. La croix, c'est l'intersection entre les mondes d'en haut et les mondes d'en bas. Faire en sorte que ce qui réunit toute l'humanité, et même les cieux, soit sur Terre. Et ils avaient dit justement que c'est peut-être même un être humain, qui est peut-être une divinité. C'était l'épisode numéro 2 de Dor HaPalaga, de la tour de Babel. C'est la même faute, exactement la même faute. Essayer de dire qu'il y a une divinité sur Terre, un être, qui est capable de réunir autour de lui toute l'humanité, eh bien c'est l'épisode numéro 2 de Dor HaPalaga. Et la signification de la croix, c'est exactement la même chose entre la tour et la ville. Le point d'intersection entre la tour, qui va vers le haut, et la ville, qui est également en largeur. C'est exactement la signification de la croix. Mais revenons. Ensuite, les Bnei Israël. Non, à l'époque, il n'y a pas les Bnei Israël, excusez-moi. Ces peuples qui ont essayé de se réunir à travers, eh bien, n'ont pas compris que le seul point commun qu'il pouvait y avoir entre tous les peuples, toute l'humanité, c'était HaKadosh Baruch Hu. C'est la partie divine que nous avons en nous. Il n'y a que cette partie qui peut nous réunir. Sinon, il n'y a pas de réunification. Il n'y a pas d'union entre les peuples. Il n'y a rien. Et d'ailleurs, la punition, on le voit. HaKadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'il y ait eu, à ce moment-là, 70 peuples qui se sont dispersés. Ces 70 peuples sont partis, eh bien, sur la surface de la terre. Ils ne se comprenaient même plus les uns les autres. HaKadosh Baruch Hu a dit, voilà, vous avez essayé de vous réunir à travers votre idéologie, à travers votre pensée. Eh bien, je vais vous séparer. Et cette séparation, ça a été justement d'essayer de disperser tous les peuples, toutes les nations pour qu'ils ne puissent même pas avoir de relations les uns avec les autres. Il y en a un qui demandait, donne-moi le marteau, il lui donnait un autre objet. Mais c'est bien plus profond que cela. Je vous expliquais qu'en fait, ces personnages ne pouvaient plus dialoguer entre eux. C'était la punition de ce désir d'union sans prêter attention à l'intervention d'Akadosh Baruch Hu. Alors qu'en réalité, c'est Akadosh Baruch Hu qui réunit tous les peuples, toutes les peuples ensemble. C'est la divinité, c'est Hachem qui, on a une partie de nous, on va essayer de voir ensemble. Chacun a une partie qui vient en lui, qui fait partie d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que cette partie-là qui peut réunir les nations, les peuples, l'humanité entière. Pas comme cette génération de Dora Palaga. Donc ces 70 peuples, 70 nations sont nés à partir de cela. Sont nés, ils ont été dispersés à cause de cette faute de Dora Palaga. Akadosh Baruch Hu dit, il n'y aura pas de dénominateur commun dans l'espèce humaine. Il n'y aura pas. Contrairement à d'autres religions qui ont essayé de dire qu'il y a un dénominateur commun dans l'espèce humaine. On dit non. Ce n'est que Akadosh Baruch Hu qui peut nous réunir. Le premier mot qu'a dit Akadosh Baruch Hu, Anochi, je suis. Dans les 10 commandements, Asarat HaDibrot, dans les 10 paroles. Anochi. Et nous voyons que, par exemple, on n'a pas développé ce sujet, mais dans le Hallel, nous disons toujours Ani, dans le Hallel, dans les Hoshaanot, Ani vaho Hoshiana. C'est quoi Ani vaho Hoshiana? C'est quoi Ani vaho Hoshiana? Ani, c'est le nom d'Hachem. Quand on dit Ani vaho, c'est les deux, c'est les noms d'Hachem. Les noms qui, les 72, on dit que c'est le Shem Améphorach. C'est les noms les plus importants. Ani, Veho. Comment ça se fait que le nom d'Hachem peut s'appeler Ani? Alors que Ani, ça veut dire moi. La signification la plus simple, quand on dit Ani, Vaho, Shiana, c'est pas dire que moi et Dieu, on va sauver. C'est Ani, la partie divine que j'ai en moi. Puisque nous avons tous une partie d'Akadosh Baruch Hu, une infime partie, notre Neshama. Cette partie, Ani, Vaho, Akadosh Baruch Hu, Shiana, nous allons être sauvés grâce à cette partie. C'est cette partie divine que nous avons en nous. Alors que les autres peuples rejettent Akadosh Baruch Hu, Esav va dire qui Ayef Anochi, je suis fatigué. Et il va s'appeler lui-même Anochi. Il est capable lui-même de prendre le nom d'Akadosh Baruch Hu, de dire je m'appelle Anochi. C'est quoi Anochi? Quand Esav a acheté le droit d'aînesse à Yaakov, il a dit donne-moi de ce rouge qui Ayef Anochi. Il a utilisé le terme Anochi. Pourquoi il a utilisé Anochi? Ben pour dire que voici la mentalité de cette. Ce peuple de Esav, c'est de dire qu'il n'y a pas de Dieu, c'est moi, ce que je ressens, ce qui est bon pour moi. Bien sûr, si je ne dérange pas les autres, eh bien, c'est ce qu'il faut faire. Tant que je suis heureux avec ce que je fais, tant que je m'épanouis, tant que je suis content, ça suffit. Anochi, il n'y a pas d'intervention extérieure. Anochi, Dieu, c'est moi. C'est exactement Esav. Donc, c'est à partir de cette faute, que Akadosh Baruch Hu a dispersé ces 70 moumot, ces 70 peuples, et sont retrouvés dispersés à travers la terre. Quel rapport y a-t-il avec Sukkot maintenant? On dit que dans plusieurs endroits, Rachamim nous disent que les peuples sont révoltés contre Hachem. Au moment de Dora Palaga, les peuples sont révoltés contre Hachem. Ils sont révoltés. Ils ne voulaient pas accepter la suprématie d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont voulu lui enlever son Ani, son Anochi, qui nous réunit, le Ani qui nous réunit à nous tous, ce n'est que le Ani Vahu Oshiana. C'est ce Ani-là que nous avons tous autour en nous qui nous réunit. Et ils n'ont pas accepté. À 3 reprises, ils ont rejeté. Ils sont révoltés contre Hachem. 3 reprises. Au monde de Apalaga, au temps de Yoshua, il y a eu également cette révolte de tout le monde contre Akadosh Baruch Hu et la guerre de Gog ou Magog. La guerre de Gog ou Magog. Et c'est ce qui a fait justement que cette guerre de Gog ou Magog également, les peuples, Gog ou Magog, vont se révolter contre Akadosh Baruch Hu. Donc vont se révolter indirectement contre le roi, le Melech HaMashiach. Le Melech HaMashiach sera présent, lui, pour nous sauver. Il sera là pourquoi? Pour nous réunir, puisqu'on dit que tous les peuples vont finir par écouter le roi Mashiach. vont finir par entrer dans notre souka, comme on a vu dans l'Aftara. Tous les peuples vont accepter HaKadosh Baruch Hu. Le but du roi du Melech HaMashiach sera de faire en sorte que tous les peuples acceptent. Mais il y aura encore une faille. Il restera une faille. Comme nous avons vu, tant que nous ne sommes pas entièrement shalem, il n'y aura pas de shalom. Tant qu'on n'est pas 100% entier, complet, parfait dans notre décision, eh bien, il y a un problème de shalom, il y a un problème de paix. Un problème de paix, c'est-à-dire qu'il y a la guerre. Cette dernière guerre, la guerre de Gog ou Magog, ben c'est la dernière guerre. Des peuples qui vont se révolter contre le Melech HaMashiach. Ils vont essayer de retirer le Melech HaMashiach, tout son travail, ce sera de quoi ? De réunir tous les peuples, toutes les nations autour d'Akadosh Baruch Hu. Et eux, ils vont se révolter. De nouveau, épisode, un nouvel épisode de Dor HaPalaga. Ce sera la même faute. La continuation de la même faute qui, durant plusieurs générations, qui, durant différentes époques, a eu lieu, eh bien, elle va de nouveau se révéler à ce moment-là. Eh bien, à quel moment ? Eh bien, au moment de la guerre de Gog ou Magog. C'est à ce moment-là qu'ils vont se réveiller. Ils vont dire, mais il y a un problème. On n'accepte pas HaKadosh Baruch Hu. Et la guerre sera extrêmement violente, parce que ce sera justement entre HaKadosh Baruch Hu, entre accepter Hachem ou ne pas l'accepter. Cette guerre sera extrêmement violente. Ensuite, une fois que cette guerre aura lieu, eh bien, il y aura le shalom. Il y aura la shlemout. Tout le monde va comprendre que ce qui peut nous réunir, ce n'est que la partie divine que nous avons en nous-mêmes. Ani. Cette partie, cette neshama que nous avons, il n'y a que ça qui peut réunir toute l'humanité. En fin de compte, les goïms vont accepter, comme on se rend compte dans la Haftara, Zecharia nous raconte, l'Haftara que nous avons lu le premier jour de Sukkot, eh bien, les peuples doivent accepter, doivent rentrer sous notre soukha. C'est l'étape ultime, c'est la fin des temps. Voilà le rapport avec Sukkot. Ils vont devoir rentrer, ils nous racontent. Et ceux qui ne rentrent pas sous la soukha, c'est écrit dans la Haftara, ils auront des épidémies. Tout le monde va mourir. Ils seront imposés. Ça veut dire quoi rentrer sous la soukha ? Rentrer dans notre soukha, ça veut dire accepter, en fin de compte, le Melech HaMashiach. Accepter, en fin de compte, l'unicité qu'il y a au sein du peuple, de toute l'humanité, qui se trouve dans le Ani, dans la partie divine, dans HaKadosh Baruch Hu. Il n'y a qu'HaKadosh Baruch Hu qui pourra nous réunir à nouveau, tous. Il n'y a que HaKadosh Baruch Hu qui peut nous relier les uns les autres. Il n'y a que ça qui peut être le lien. Le lien qu'il y a entre les êtres humains, c'est parce que nous avons tous une Neshama, une partie divine d'HaKadosh Baruch Hu. C'est le lien. Si on cherche d'autres liens, bien sûr qu'il y a d'autres liens. Mais ce qui peut nous réunir toutes les nations, tous les peuples, toute l'humanité, ce n'est uniquement que cela. Et ça, c'est justement cette soukat à ma chère, la dernière souka. Cette soukha où tout le monde va devoir rentrer, c'est-à-dire accepter HaKadosh Baruch Hu, ça va se faire dans cette soukha. Accepter la suprématie d'HaKadosh Baruch Hu, ça va se faire dans cette soukha. Nous allons, durant Sukkot, donner des korbanot pour les shivim umot. Pourquoi les shivim umot ? Pourquoi on apporte des korbanot tous les jours, des parim, des offrandes pour les goyim ? Ben c'est très simple. Parce que les goïms aussi vont faire partie de nous. Les goïms, les autres peuples également, un jour vont se réunir, vont accepter cette suprématie du Melech HaMashiach. Bien sûr qu'il y aura Gog ou Magog qui vont refuser eux. Mais il y aura ces 70 nations qui vont en fin de compte, pour ceux qui vont rester, 110 nations vont rester avec nous, vont rentrer sur la soukha. Ils vont rentrer dans la soukha de Shalom, la soukha de paix. Ils vont accepter ben, la suprématie du Melech HaMashiach. C'est pour cela que nous apportons pendant Sukkot, c'est korbanot. C'est korbanot. C'est 70 korbanot que nous amenons pour eux. Nous avons précisé que le jour de Shana Rabba, donc aujourd'hui, c'est le jour où on a fini Tashlou, on a fini les 70 korbanot. Les 70 korbanot, c'est fini. Simchat Torah, ce sera autre chose. Là, maintenant, on raconte que Simchat Torah, ensuite, je me trouve à dire, ça y est, là, qui raconte un machal, que le dernier jour de Shemini Atzeret, Simchat Torah, c'est le jour où, ça y est, les premiers jours de Sukkot, c'était pour tout le monde. C'est comme un roi qui fait la fête pendant 7 jours, pour tout le monde. Et puis après, avec son fils, il veut se, il veut festoyer avec son fils. Il se met seul à seul avec lui. Il dit, voilà, on va faire un jour en plus où on va être uniquement moi et toi. On voit bien de ce midrash, de cette mara, on voit bien que pendant les 7 jours, les 7 premiers jours jusqu'à Hoshana Rabba, il y a cette participation des goyim, cette participation des shivim parim, des 70 offrandes que nous apportons pour les peuples, pour les 70 peuples. Mais il va rester un jour. Le jour de Simchat Torah sera le jour de la relation unique entre l'Ebnei Israël et Akadosh Baruch Hu. Mais revenons au jour d'Hoshana Rabba. Hoshana Rabba, c'est le jour où nous finissons d'apporter les 70 korbanot. C'est-à-dire, ce jour représente pour nous le jour où les 70 nations acceptent, ont finalement accepté la suprématie du Melech HaMashiach. Ont finalement accepté que HaKadosh Baruch Hu soit le roi des rois. Accepté que les Bnei Israël ont un roi, le Melech HaMashiach, et que ce qui va les réunir, toute l'humanité, ça va être que ce côté, cette partie divine que nous avons en nous, ce Anochi, ce Ani, Ani Vahoshiana, le Ani que nous avons en nous. Là, lorsque les Shivimumot auront accepté, c'est là que nous aurons apporté les 70 korbanot. Ça, ça passe quand? Le jour de Shana Rabba. Comme dit le Navi Zecharia. Le Navi Zecharia dit qu'en fin de compte, qu'est-ce qui va se passer à la fin? Kola Mim Safabucha, tous les peuples vont parler une seule langue. Il va y avoir un dialogue direct qui va se passer. Plus de problème de 70 nations. Plus de problème de langue. Plus d'incompréhension. Tout le monde va comprendre ce qui va se passer. Nikro Bechem Hashem. Et tout le monde va accepter, c'est ce que dit, et ce qu'on va le dire même dans les Hoshanot, certains le disent, que à fin de compte, la date qu'on la met arrête, qui est Hashem ou Elohim. Pourquoi on dit ça dans les Hoshanot? Un minag Ashkenaz, c'est de lire la date, je crois que aussi, la date qu'on la met arrête, qui est Hashem ou Elohim. Qu'est-ce qu'on a besoin, le jour de Shana Rabba, de mentionner l'égoïm? Eh bien oui, c'est le but ultime. Hoshana Rabba, la date de savoir qu'on la met arrête, tous les peuples de la terre, qui Hashem ou Elohim, que Hashem, c'est notre Dieu, c'est le Dieu. Ça veut dire que on est en train d'être métaken la faute du Dora Palaga. C'est le tikkun du Dora Palaga. Le fait que tous les peuples vont se réunir et accepter Akadosh Baruch Hu, qui est Hashem ou Elohim, ça veut dire qu'il n'y a plus de problème. Il n'y a plus la faute du Dora Palaga. C'est terminé. C'est-à-dire que tous les goyim vont accepter les Bnei Israël. C'est pour cela qu'on appelle le jour de Shana Rabba Yom HaChotam HaGadol. C'est la fin, c'est le jour, la dernière, bien sûr il y a d'autres significations, mais une des significations de dire la dernière signature, la finalisation, le moment où tous les peuples vont accepter en fin de compte la suprématie des Bnei Israël. Tous les peuples vont accepter HaKadosh Baruch Hu. La date Kol HaMe'aretz, qui est Hashem Wa Elohim, que c'est HaKadosh Baruch Hu, le Dieu. Je voudrais vous rapporter un chidouche intéressant à ce propos, qui est rapporté dans le Sefer Chochmat Shlomo du Rav Shlomo Kluger. Il essaie de comprendre pourquoi on prend les Aravot à Hoshana Rabba. Alors on a compris qu'Hoshana Rabba c'est un jour important. On a compris que c'est le jour de Yom HaChotam HaGadol, le jour de la grande signature. Le jour où on a fini les 70 korbanot, 70 offrandes qu'on a portées pour les peuples. Le jour où les peuples vont accepter, le jour où on fait le tikkun du Dora Palaga, cette période de Tishri. Cette parole de Sukkot, elle est propice à cela. Où ils nous font la guerre. Pourquoi ils nous font la guerre? Parce que c'est la fin où on est en train de finaliser les derniers qui restent. Ceux qui n'ont pas accepté la suprématie, bien c'est eux qui vont faire la guerre de Gog ou Magog. La guerre de Gog ou Magog, c'est les derniers qui vont s'élever contre nous en disant « Mais ça y est, ça suffit. » Les derniers, c'est eux. Et ça se passe au moment de Sukkot. Maintenant, pourquoi Hoshana Rabba? Nous prenons ces Aravot. Quel rapport? Pourquoi on prend les Aravot? Nous allons nous promener avec des Aravot. Nous allons taper les Aravot. Pourquoi avoir choisi les Aravot? Pourquoi pas des Hadassim? Alors c'est vrai que ça se passe toujours après une veillée difficile et qu'on attend une seule chose, c'est d'aller dormir. Alors on tape vite avec la Arava. Rapidement et sans réfléchir, sans comprendre. Il y a plusieurs explications. Je vais vous donner une explication intéressante. En En tout cas, au niveau de notre compréhension, à nous, on va essayer de comprendre. Il y a des explications bien plus profondes. Essayons d'avoir une compréhension simple pour finir ce cours. Nous savons tous que les quatre éléments qui comportent le loulav, eh bien, il y a le loulav, le etrog, le hadas et l'arava. Et chacun a sa spécificité. Le etrog, il a le goût et l'odeur, le ta'am. Le hadas, il a l'odeur et pas le goût, et ainsi de suite. L'arava, ça correspond à quoi? Et ça veut dire que ça correspond à toutes les sortes d'êtres humains. Les êtres humains qui ont un bon comportement, mais... Et on dit qu'au moment de la mitzvah de Loulav, on réunit ensemble toutes les catégories d'êtres humains, toutes les catégories de personnes. On les réunit ensemble. Et nous, on choisit pour Rosh Hashanah Rabba, eh ben l'arava. L'arava, c'est quoi? C'est celui qui n'a rien. Il n'a ni odeur, ni goût, ni rien du tout. C'est celui qu'on choisit à Shana Rabba. Il correspond à quoi au Rechaim? Lo ta'am ve lo reach. Il n'y a ni odeur, ni goût. Et pourtant, c'est celui qu'on prend le jour de Shana Rabba. Il dit le Rav Shlomo Kugler une phrase intéressante. Dafka Baolamazé, Yeshit Pel Areshaim, il faut prier sur les Rechaim. Maintenant, nous allons apprendre les Aravot, pourquoi? Pour prier sur les Rechaim. Le dernier moment, on allons prier sur ceux qui n'ont ni Ta'am ni Réar. Les Rechaim, c'est sur eux, que, c'est à eux, avec eux qu'on va prier. Les Aravot, nous allons prendre les Aravot, certains prennent les Aravot et font même le tour, le dernier tour avec les Aravot. La même manière que nous offrons, c'est-à-dire Rav Shlomo Kluger, nous offrons des Korbanot, Shivim Parim, 70 Korbanot. Au moment de la fête pour les Omot Haolam, ça va se passer uniquement pendant les 6 premiers jours. Shishayamim, les 6 premiers jours. Pourquoi 6 jours? Pourquoi 6 jours? 6 jours parce que les 6 jours correspondent aux 6000 ans. 6000 ans de l'existence de l'humanité. Pendant 6000 ans. Donc pendant ces moments-là, il faut faire Agouda Achat. Il faut absolument réunir ensemble tout le monde. C'est le travail des 6000 ans. Alors qu'ils sont distincts les uns des autres, alors qu'il y a le Etrog, le Loulav, la Hadas, la Rava, les différentes catégories de personnes qui n'ont pas vraiment de lien entre eux, eh bien nous essayons de les réunir autour d'un même bouquet, le bouquet du Loulav. Ça dure pendant les 6 premiers jours, eh bien c'est les 6000 ans. Même Agouda Achat. Mais le septième jour, qui est le jour de Shana Rabba, la fin, qui correspond au septième millénaire, Elef Hashvi. Eh bien, à ce moment-là, les Goïm vont, ceux qui n'auront pas Nitam, mais les Rechaim, eh bien, vont s'écarter. Puisque pendant le septième millénaire, ne restera que ceux qui auront au moment où on va recevoir leur récompense. Le septième millénaire, c'est plus ce travail de réunification entre les différentes catégories de personnes. Septième millénaire, les Rechaim, ils vont mourir. Et c'est pour ça qu'on prend l'Arava seul. Pour signifier que le septième jour, ce sera le moment où les Rechaim vont disparaître. Alors on prend les Rechaim pour eux. On prend les Aravot pour eux, pour les Rechaim. Pour dire qu'ils vont être jugés à part entière. Ils sont séparés maintenant, c'est fini. Les Rechaim, ils ont été écartés du lot. Ils sont écartés. C'est ça qu'on prend l'Arava seul. C'est à ce moment-là qu'on dit maintenant, c'est fini. Les 6 premiers jours où on a fait, maintenant on arrive au 7e, c'est terminé. LFHFI, le 7e millénaire, c'est terminé. Et c'est pour cela, c'est pour ça qu'on va frapper par terre. Pourquoi on frappe par terre avec l'Aravot? Eh bien, pour dire aux Rechaim, acceptez. Soyez humble. Et soyez la achna'a. Il faut accepter maintenant la suprématie du peuple juif. La suprématie d'Akadosh Baruch Hu. C'est justement ce geste de prendre les haravot le septième jour et de les frapper par terre. Ça vient justement signifier, je le frappe par terre pour montrer, ça y est les Rechaim, c'est fini, vous n'avez plus de solution. Jusqu'à présent, il y avait la réunification. On essayait de vous mettre dans le même bouquet. Maintenant c'est fini, on arrive à la fin des temps. On arrive à la fin. À cette fin maintenant, c'est terminé. Maintenant, on prend les haravot seuls et on les frappe par terre. On leur dit ça suffit, acceptez.
Les goïms, c'est l'arabe.
Je ne veux pas dire les réchaïms. Pas seulement les goïms, pas les autres peuples qui ne vont pas accepter, parce que nous avons vu ensemble qu'il y a des peuples qui vont accepter. La plupart des Shivim Umot, et c'est ce qu'on va amener des korbanot pour eux, la plupart des Shivim Umot vont accepter la suprématie du roi, du Melech HaMashiach en fin de compte. Il va rester uniquement, puisqu'on ne sera pas encore dans la Shlemout, il va rester uniquement guerre de Gog ou Magog. Gog ou Magog qui eux vont dire j'accepte pas encore, la dernière brèche. Une fois que cette brèche sera terminée, on sera dans la Shlemout complète, dans le Shalom. Là il y aura la paix. Mais tant qu'il y aura encore cette brèche, donc il y aura une catégorie de personnes qui ne vont pas accepter, qui sera la guerre de Gog ou Magog. Mais tous ceux qui vont accepter, pas seulement nous, les Shivim Umot, cette fête de Sukkot qui représente justement la réunification de tout le monde. Cette fête de Sukkot, nous allons la vivre justement avec, en important des Shivim Parim, des offrandes pour les autres peuples. Pour dire à vous aussi, à la fin du temps, vous allez vous réunir avec nous. C'est pour ça que nous lisons ces Haftarot. Ces Haftarot, nous disons le premier jour, par exemple le premier jour de Sukkot, nous disons que les goïms vont finir en fin de compte par rentrer sous notre soukha. Ils n'auront pas le choix. C'est accepter la suprématie du Melech HaMashiach, accepter la Achna, être humble, accepter en fin de compte les Bnei Israël, accepter le Melech HaMashiach et accepter HaKadosh Baruch Hu, la suprématie divine d'HaKadosh Baruch Hu. C'est exactement ça la signification. Si cette fête de Sukkot, elle a toute cette relation avec HaKadosh Baruch Hu, avec les goïms, excusez-moi, c'est parce que justement ils ont un rôle à jouer. Nous allons nous-mêmes réunir notre bouquet, toutes les catégories de personnes. À part bien sûr, comme on a vu le septième jour, où là nous prenons que les Rechaïm, on leur demande d'être humbles, d'accepter. Mais il va y avoir durant toute cette période, des gens qui ne vont pas accepter. Durant les 6000 ans, des gens qui ne vont pas accepter. Ces peuples qui, à cause de la faute du Dora Palaga, n'ont pas accepté d'être réunis autour d'Akadosh Baruch Hu, ont essayé de se réunir autour d'eux-mêmes, autour de leur propre idéologie. Et là, Kadosh Baruch Hu n'a pas accepté. Il les a dispersés à travers le monde entier. Et là, ça, c'est ce que nous allons faire pendant Sukkot. Nous allons apporter des korbanot. Nous allons lire ces haftarot. Nous allons lire la guerre, la Haftara de Gog et Magog, puisqu'il y a une période propice pour que Gog et Magog se réveillent. C'est vrai, c'est une période propice. Puisque nous sommes en train de nous réunir autour d'Akadosh Baruch Hu, et Gog et Magog se réveillent en disant, nous n'acceptons pas. Et comme nous avons dit, en fin de compte, il y aura Shalom. Puisque nous serons dans la Shlemout, une fois que nous aurons écarté de notre chemin ceux qui n'auront pas accepté la suprématie d'Akadosh Baruch Hu, ceux qui n'auront pas accepté de faire le tikkun du Dora Palaga, qui est en fin de compte de dire Ani Vahu Oshiana, le Ani, l'être partie divine que nous avons en nous, c'est ça qui nous réunit. Le Ani, l'être partie que nous avons, c'est que ça qui peut réunir toute l'humanité, tous les peuples, ceux qui acceptent, tant mieux pour eux. Et on fait des korbanot pour eux, pour qu'ils acceptent. On veut qu'ils rentrent sous notre soukha, comme il écrit dans Zecharia. Mais en fin de compte, ceux qui n'accepteront pas, eh bien, ce sera la guerre de Gog ou Magog. Cette guerre de Gog ou Magog, en fin de compte, elle arrivera, oui, à la Shlemout. Et pour finir, pour conclure ce sujet, vous savez que, puisque nous sommes également en train de finir les jours de jugement, le jour de Shana Rabba, c'est le dernier jour de jugement. Le dernier. Je voudrais qu'on réfléchisse sur un seul point par rapport à Sukkot. Quel rapport y a-t-il entre Sukkot et le jour de jugement? Alors, on comprend Rosh Hashanah, on comprend Yom Kippour, on comprend la Aseret Metshuva. Mais Sukkot, nous allons sous la Soukha. On rentre dans une Soukha tranquillement. On mange, on boit, on dort. Et on me dit, attention, c'est encore des jours où on peut encore se rattraper pour arriver au jour de Hoshana Rabba. Alors c'est vrai qu'on va en dire les Slichot. Mais quel rapport avec les jours d'Hoshana? Quel rapport a-t-il eu entre Sukkot et Rosh Hashanah et Yom Kippour? En effet, Sukkot, alors que jusqu'à présent, nous avons été jugés sur le paraître, sur ce qu'un homme bien, peut avoir l'air d'être extérieurement. Sukkot, il y a un point extrêmement important, une leçon extrêmement importante que nous devons tirer de Sukkot, la mitzvah de Soukha. Il y a l'être, comment on est en nous-mêmes. On peut manger dans une Soukha, boire dans une Soukha, et ne même pas se rendre compte qu'on est dans une Soukha. On ne sait pas pourquoi on est là. On m'a dit d'être là, je suis là. Je peux être là comme ailleurs, ça change rien. Mais si mon esprit n'est pas en train de vivre cette mitzvah, ben j'accomplis pas réellement la mitzvah comme il le faudrait. Nous avons pendant ces jours de Sukkot une tshuva différente que la tfila que le repentir de Rosh Hashanah Kippour et des jours de Asarat et Metshuva. Nous avons une tshuva qui va être dans la qualité et dans l'intensité qu'on va donner aux mitzvot que nous allons pratiquer. Nous avons une mitzvah, par exemple, à Souga, qui est de manger, de boire, dormir. Alors on va dire, mais quelle est la mitzvah? Je fais ce que je fais tout le temps. Eh bien, justement, tu vas le faire. Des gestes qui sont habituels, que tu fais tous les jours. Tu vas manger, boire, dormir. Mais attention, donne-leur un sens différent. Donne-leur une profondeur différente. Donne-leur une dimension différente. Puisque tu es en train d'accomplir une mitzvah, tu vas sacraliser, tu vas rendre kadosh. Même manger, boire, dormir. Qu'est-ce que c'est quoi dormir? Eh bien, tu vas rendre ça extrêmement sain, extrêmement kadosh. Tu vas être en train d'accomplir une très grande mitzvah, la mitzvah de la soukha. Quelle est la signification? Et ça va nous dire très simplement, sache que ces gestes que tu fais tous les jours, si tu ne leur donnes pas un sens, eh bien, tu ne vas pas aller loin. Tu peux avoir l'air d'être pratiquant. Tu peux avoir l'air d'être quelqu'un qui a l'air extrêmement pratiquant. Mais ce n'est que le paraître. Si tu n'as pas changé, si tu ne donnes pas une signification, un sens, une dimension à tes actions, eh bien, ça ne vaut pas grand-chose. Souka, ça vient nous apprendre, pour finaliser ces jours de repentir, finaliser ces jours de jugement, ça vient nous apprendre un élément extrêmement important. Regarde, la mitzvah, qu'est-ce que tu as fait comme mitzvah jusqu'à présent? Tu as dormi, mangé, bu. Dans une souka, c'est vrai, mais tu as fait des gestes qui sont des gestes de tous les jours. Eh bien, si tu as su donner à ces gestes une intensité, une lumière, une dimension particulière, tu as accompli une mitzvah extraordinaire, la mitzvah de souka. Et à travers cette souka, nous devons apprendre pour toute l'année. Toute l'année, lorsque nous faisons des gestes, des mitzvot, si on ne leur donne pas une intensité, une lumière, si on ne leur donne pas une dimension particulière de mitzvah, ça devient un geste, mécanique. Et puis, encore, on n'avance en rien, on fait des gestes, des actions. Mais on ne change rien au fond de nous-mêmes. Vous savez, je réfléchis toujours, pourquoi les femmes, elles ne font pas la mitzvah de souka? Pourquoi elles n'ont pas l'obligation de manger dans la souka? Ben, c'est très simple. Elles n'ont pas besoin de cet enseignement, les femmes. Toute leur vie, mais qu'est-ce qu'elles font? Elles sont à la cuisine, mais elles font tout ce qu'elles font. Elles travaillent, bien sûr, mais elles font énormément pour la famille, mais elles n'ont pas cette obligation de venir prier, de faire comme nous toutes ces actions. Elles, même à travers des gestes tout à fait, des gestes de cuisine, elles savent lui donner une dimension de Kdoucha extrêmement importante. Elles savent lui donner une importance, une valeur. Elles savent que c'est pour Shabbat. Elles ont déjà cet enseignement. Elles n'ont pas besoin, peut-être. C'est une des raisons pour lesquelles les femmes n'ont pas cette obligation de manger sur la souka. Si c'est ça le sens, si la souka, ça vient nous apprendre cet enseignement, de donner un sens profond, de savoir qu'un geste banal, ça peut être également, peut avoir une dimension, ça peut avoir une élévation particulière, eh bien les femmes, elles ont peut-être appris avec autre chose. On va juste conclure en disant que c'est vrai que ces jours de tchouva, eh bien, vont être finalisés aujourd'hui. C'est vrai que nous avons eu cette tchouva sur l'être, comment paraître. Nous devons surtout travailler sur la qualité, sur l'intensité, la dimension que nous allons donner à nos gestes, nos actions, qui sont des mitzvot extraordinaires. C'est à travers ces gestes que nous allons nous élever spirituellement, bien sûr, mais c'est à travers également la profondeur que nous allons donner à ces gestes, c'est à travers la réflexion, à travers la compréhension de ces gestes, de ces actions. Savoir que quand je dors dans une souka, quand je mange dans une souka, j'accomplis une mitzvah extraordinaire. Si je le fais mécaniquement, je suis très loin de la mitzvah. Si je le fais, je donne toute sa profondeur, eh bien j'aurais compris que l'enseignement de la mitzvah de la souka est venu pour me finaliser ces jours de repentir, pour nous faire atteindre tous une tchouva extraordinaire, que tout le peuple d'Israël soit jugé et soit khatoum, soit en fin de compte signé pour les Chaim Tovim Aruchim Ul Shalom.